Vraiment, la Jordanie qui commençait dans la rue d'après, quoi, pour nous c'était inaccessible, une autre planète. Il y avait le monde entier qui s'était habitué à l'idée, ça c'est la Jordanie, ça c'est Israël. Et on attendait une promesse de 2000 ans que Jérusalem nous serait rendue. Et personne ne savait comment ça allait se passer. D'autant plus que l'humanité était contre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tous ces problèmes autour de Jérusalem, mais ce n'est pas fini. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé une histoire de fou. Le roi Hussein de Jordanie est devenu fou. Il a attaqué Israël. Et voilà comment ça s'est passé. Il nous a envoyé avec des obus un message, une minute, un message qui disait ceci. Moi, je suis un musulman pieux. Je sais que Jérusalem, c'est à vous, venez la prendre. Il a attaqué, on l'a prise. Mais une fois que ça s'est passé, on s'est dit, ah, que ça. Mais pendant 2000 ans, c'était un rêve d'une autre planète, les Juifs à Jérusalem. Je ne sais pas si vous suivez ça. 2000 ans, c'est énorme. Impossible. Un mur. Et puis, subitement, ça s'est passé. Bon, j'ai un peu plaisanté avec Hussein, mais effectivement, qu'est-ce qui lui a pris d'attaquer la guerre des six jours? On avait un problème avec la Syrie et l'Égypte, et il s'est mis à attaquer Jérusalem, et il a perdu ce qu'ils appellent la Cisjordanie, et ce que nous appelons la Judée et la Samarie. Et quelles que soient les péripéties qui se passent, c'est le récit de la Bible qui se remet en marche. C'est Israël sortant d'Égypte et qui reconquiert le pays de Canaan. Simplement. Et comment ça se passe? Chaque fois qu'on est attaqué par les Arabes, ils perdent la guerre et les frontières se réinstallent. Vous savez, je vous dirai une blague de Moshe Dayan. Vous vous rappelez de Moshe Dayan? Alors, après la guerre des six jours, il y a un journaliste qui a voulu faire une blague et qui lui a dit, mon général, vous ne croyez pas que le bon Dieu vous a un peu aidé? Alors il leur a dit, vous avez rien compris, c'est nous qui l'avons un peu aidé. Parce que c'est inouï ce qui se passe depuis 48. Nous avons, comme disait d'ailleurs Moshe Dayan, nous avons deux alliés, le Dieu des Juifs et les armées arabes. Chaque fois qu'ils attaquent, ils perdent la guerre. De remarquer ça. Je veux dire, moi je vous parle en croyant, c'est-à-dire, il faut être mystique pour croire que ce qui s'est passé là, c'est les Juifs qui l'ont fait. Il y a un chef d'orchestre là-haut qui sait qui veut. Il sait ce qu'il veut. Parce qu'on a le monde entier autour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et bien, malgré le monde entier, Jérusalem se construit. Vous savez, il y a 50 ans ici, il y avait des cailloux, des moustiques et quelques fonctionnaires de l'Empire britannique. 50 ans après, il y a une ville juive. Qui c'est qui fait ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Depuis le dernier prophète hébreu, c'est Malachi. D'ailleurs, je ne crois pas qu'en théologie chrétienne, les apôtres sont considérés comme des prophètes. Les évangélistes ne sont pas considérés comme des prophètes. Et le dernier prophète, c'est la fin du premier royaume de Juda. Il y a 2600 ans détruit par les Babyloniens. Je veux dire comment nous nous expliquons ça, je veux le dire par une image. Nous avons un grand théologien du Moyen-Âge qui s'appelait Judas Lévi. Vous avez entendu parler de Judas Lévi. Qui a donné cet enseignement. Il dit qu'il y avait deux conditions pour que la prophétie soit expérimentale. D'une part, que Israël soit sur sa terre, et d'autre part, que toutes les tribus d'Israël soient rassemblées. Or, la prophétie s'est arrêtée quand le premier exil d'Israël a commencé. Les 10 tribus du Nord ont été détruites au bout de quelques centaines d'années par les Babyloniens et les Judéens, qui sont les derniers des Hébreux, ont été exilés. La prophétie s'est arrêtée à la fin du premier royaume de Juda. Alors, je vous en donne une image pour bien comprendre ça facilement. Je me rappelle de quand j'étais jeune, nous n'avions pas des postes à transistor, mais enfin l'image marche avec aussi des postes à transistor. On avait des postes à lampe. Vous vous rappelez de ces postes, des vieux postes à lampe? Alors imaginez un poste, pour capter l'émission, il lui faut 12 lampes. 10 de ces 12 lampes ont été détruites. Alors il y a toujours l'émission, mais elle ne peut plus être captée. Alors la prophétie s'est arrêtée quand le peuple d'Israël a été dispersé. Alors maintenant qu'ils se rassemblent, ça recommence. Et vous savez, pour continuer l'image, mais c'est une image, hein, pas plus. avant, quand on répare un poste, avant d'entendre l'émission, on entend du fading. C'est comme ça qu'on dit ? Des parasites. Okay. Alors on a des tas d'expériences de ce genre. Avant que la prophétie arrive, alors vous avez énormément d'orateurs qui prennent le style prophétique, pas seulement chez les Juifs d'ailleurs. Vous avez ces moralistes qui parlent comme s'ils étaient les prophètes d'Israël. Et puis, nous avons un phénomène dont on vous parlera certainement, qui s'appelle le syndrome de Jérusalem. Les asiles psychiatriques à Jérusalem sont encombrés de messies. Et énormément de gens qui arrivent à Jérusalem et nous disent tranquillement, eh bien voilà, c'est moi. Vous ne savez pas ça, pas seulement des Juifs. D'ailleurs. Alors, renseignez-vous, ça s'appelle, c'est classé dans les maladies mentales mondiales, le syndrome de Jérusalem. Méfiez-vous. Je vais raconter une histoire. J'en ai reçu pas mal dans mon bureau, d'ailleurs. Alors, en général, il faut garder son sang-froid. Vous savez. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a un. En général, ils ont une belle figure prophétique. Là. Pas de chance. Ça aurait pu. Mais... Alors, il y en a un qui, au bout de 2 heures de précaution de langage, qui me dit, ben voilà, je suis le roi David. Alors, comme je dis, il ne faut pas se démonter. Alors, je dis, ben, tu sais que ça fait 2000 ans que je t'attends. Il y a un verset des psaumes que je n'arrive pas à comprendre, tu vas me l'expliquer. Il me dit, quoi, il faut que je connaisse les psaumes. Tu es le roi David ou tu n'es pas le roi David? J'ai compris. Et bien, au bout de 2 heures, il avait l'adresse d'un psychiatre. Ça s'est arrangé depuis. Mais, tu sais pas, il y a quelque chose dans la ville qui fait que il y a une certaine tempérament mystique. Dès qu'ils arrivent là, choc. C'est moi.
Donc, ce que je voulais dire au sujet des prophètes, c'est donc Israël il y a eu des prophètes, et depuis donc 2600 ans, est-ce qu'il est reconnu des prophètes pour la
connaissance ? Quel sens vous donnez au mot prophète ?
Celui qui, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, qui.
Eh bien, depuis l'arrêt de la prophétie biblique, l'idée que quelqu'un se présente comme prophète, ou c'est une façon de parler, on est gentil avec lui, ou bien il se prend au sérieux, c'est l'asile. Je parle très, très franchement. Et vous savez, c'est pas n'importe qui peut se permettre d'être fou de ce genre de folie. En général, ce sont des gens qui ont une valeur morale tourmentée, et spirituelle violentée, mais très profonde. Pas n'importe qui peut se permettre d'être fou, en général, d'ailleurs. Bon, c'est un autre problème. Mais très souvent, mon expérience pédagogique me montre ceci. Très souvent, des gens viennent me dire qu'ils ne sont pas croyants. En réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne sont pas prophètes. Alors, je les rassure là, en disant moi non plus. C'est-à-dire, pour eux, être croyant, ça veut dire quelqu'un à qui Dieu a parlé. C'est ça l'erreur. Ça, c'est prophète. Croyant, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est clair, ça veut dire. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils sont croyants parce qu'ils voudraient être prophètes. Bon, ça commence comme ça, ensuite ça s'arrange. Et quand quelqu'un vient me dire qu'il entend des voix, moi je pense tout de suite à quelle adresse je vais l'envoyer. Il faut faire ça avec beaucoup d'adresses. Par exemple, la Bible parle des anges. Qu'est-ce qui sait ce que c'est qu'un ange ? Quoi que ce soit, que les théologiens nous en disent. Okay. Et la Bible, tranquillement, parle des anges. Mais personne n'a jamais vu un ange. Alors quand quelqu'un, et je crois que les anges existent, puisque la Bible dit, alors quand quelqu'un vient me dire qu'il a vu un ange, je suis très inquiet. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça veut dire que je ne crois pas que les anges existent, mais on n'est pas autant des anges. Et alors, il y a des expériences exceptionnelles de gens vraiment d'exception, qui ont des expériences, mais ils se taisent. Et le critère que c'est authentique, c'est qu'ils n'en parlent pas. Celui qui en parle, c'est que... Je me souviens d'un autre exemple, il y a assez longtemps, quelqu'un m'a dit qu'il a eu, il a vu des lumières. Alors j'ai demandé, quelle couleur ? Il a blêmi, boy, il faut qu'elles aient une couleur. Il a dit, la prochaine fois, tu feras mieux, tu verras la couleur. C'est des fantasmes. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des êtres d'exception qui ont des expériences. Je ne dis pas des visions, des expériences spirituelles indéniables. Mais c'est des êtres d'exception. Et encore une fois, quand je vous dis, le critère de l'authenticité, c'est qu'on n'en parle pas. Si on en parle, il faut chercher des motivations.
Ken ? Mais comment est conduit le peuple juif aujourd'hui ?
Par ses maîtres. Vous savez, nous avons le livre et nous avons les maîtres qui nous permettent de savoir comment lire le livre. Bien sûr. Mais alors, effectivement, imaginez l'état de diaspora du peuple juif pendant 2000 ans. C'est une diaspora, comment on dit, au 13e degré. Nous sommes un peuple extrêmement divisé parce qu'on a éclaté en autant de communautés qu'il y a de manière d'être homme dans le vaste monde. Et ce n'est que de notre temps qu'on se rassemble, qu'on se reconnaît, qu'on se voit, qu'on se... au bout de 2000 et des centaines d'années. Alors on est dans une phase de mise au point du discours qui sera le discours de l'avenir. Et actuellement, chaque rabbin a son discours. Comme m'a cité Daniel Epstein, que je connais bien d'ailleurs, c'est pourquoi je peux vous en parler, je sais à peu près de quel profil il est, dans sa propre recherche d'ailleurs. Mais d'autre part, il y a la tradition. Et la règle, c'est que toute opinion, a priori, peut être valable à une condition. C'est qu'elles sont en opposition à rien de la tradition. Et une tradition de 4000 ans, il faut le faire. Vous comprenez ? Alors, d'abord, premièrement, ça va de soi, de la Bible elle-même. Hein. Dès que quelqu'un me dit « Ah, mais il y a pourtant écrit que... » Alors je dis tout de suite, on ouvre le livre, comment c'est écrit et où ? On ne peut pas apprendre comme ça, en disant « La tradition dit que... » Qu'est-ce qu'elle dit, et où elle le dit, et comment elle le dit ? Exactement, à la lettre près. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, cette mémoire-là, elle a traversé les siècles. C'est-à-dire, nous sommes les disciples des prophètes. J'ai un peu trop parlé rapidement tout à l'heure en vous disant que nos petits-enfants, eh ben, ça commence déjà avec la guitare, mais ça vient. Ça... D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, les grands prophètes n'étaient pas seulement des poètes, étaient aussi des musiciens. Je crois que les chanteurs de cabaret, non, c'est pas une blague, s'ils étaient normaux, ils seraient prophètes. Mais comme ils ne sont pas normaux, alors ils sont chanteurs de cabaret. Mais ça va un peu dans le même sens. Non, je pense à tous ces grands artistes. C'est du même ordre, mais à un niveau profane. Ben, j'espère que on aura l'occasion de se revoir un jour. Comme nous disons habituellement, l'année prochaine, à Jérusalem.
Merci beaucoup d'avoir parlé avec notre cœur. Franchement, merci beaucoup de l'avoir reçu.
Ben, c'était normal. Surtout, vu qui vous a envoyé. Bien, alors à bientôt.
Merci.